8h27 minutes en ce lundi matin. On est le 9 décembre. Vous êtes bien branchés à Boulevard 102.1. Merci de commencer la semaine et la journée avec le trio de Rage Against le matin. Les logements à location, Airbnb, ouais, ont souvent mauvaise presse. Même à un point tel que selon certaines personnes, voire des gens au gouvernement, les locations de logements Airbnb pourraient être un facteur majeur dans notre problématique de manque de logement.
En plein ça, on dit « Hey, s'il n'y avait plus d'Airbnb, on n'aurait peut-être pas de crise du logement. » J'ai de la misère à croire à ça parce qu'il manque tellement de logements.
C'est-tu le bouc émissaire, là?
Ouais, c'est ça, tu sais. Le lobby des hôtels est-tu trop fort au Québec, justement? Puis là, on a trouvé un coupable. Puis en même temps, Airbnb, j'imagine, il doit avoir des retombées économiques reliées à ça. T'sais, moi, là, maintenant que la famille de 6, on voyage puis on prend des Airbnb parce que, justement, ouais, ça nous permet de voyager, d'aller à des endroits beaucoup plus faciles, beaucoup moins chers, puis de dépenser dans les attractions par la suite.
Mythe ou réalité que les Airbnb est un joueur majeur dans la situation et la problématique de manque de logement? On va en jaser avec Gabriel Giguère, qui est analyste senior en politique publique à l'Institut économique de Montréal. Il est au bout du fil. Gabriel, bon matin.
Bon matin à vous.
Merci d'être là, Gabriel.
Merci pour l'invitation.
Peut-être la meilleure façon de commencer la discussion, c'est justement de poser la question, mythe ou réalité que les Airbnb, joueurs majeurs, aient un impact à ce niveau-là dans la problématique du manque de logement?
Ah, ça, c'est assez un mythe, là. Je pense que vous l'avez bien amené déjà. Mais si on peut se replonger dès le départ, là, le Québec, et plus largement le Canada, mais si on se concentre au Québec, il y a quand même une flambée des prix. On le sait depuis les dernières années, notamment la ville de Québec, quand on regarde les maisons unifamiliales, depuis 3 ans, ça a augmenté de 30 %. Les politiciens se demandent qu'est-ce qu'on peut faire pour calmer le jeu, parce qu'on le sait que pour les premiers acheteurs, c'était difficile. Là, ben, rapidement, on se tourne vers un bouc émissaire. C'est très facile de taper sur lui, c'est Airbnb, qui serait la raison de tous les maux en matière de logement. Et malheureusement, ça tient pas la route parce que quand on regarde les analyses de la SCHL, ce qu'on a besoin au Québec, là, c'est de construire en quelques années plus d'un million de logements à toute fin pratique. Ça, ben, c'est énormément de logements. Quand on regarde le rythme actuel, là, pour un an, là, il faudrait construire à peu près 70 000 à 100 000 logements de plus que ce qu'on construit, parce qu'on construit environ 50 à 60 000 logements. Okay. Donc, il faudrait vraiment augmenter ça. Malheureusement, c'est pas le cas du tout. Et là, ce qu'on nous dit, c'est non, regardez plutôt du côté d'Airbnb. Là. Nous, on n'est pas très proactifs, les marques MRS au Québec. Là. Donc, regardez Airbnb. Ça, c'est la réelle problématique. Et le gouvernement du Québec boit le Kool-Aid. C'est ça qui me surprend un petit peu avec des lois contre Airbnb en septembre 2023 qui nous dit à toute fin pratique, là, ça va prendre des certificats. Toujours plus de certificats, plus de permis pour nous permettre de faire des choses au Québec. Et ça s'inscrit dans cette dynamique-là, l'assaut du gouvernement contre Airbnb.
Hey, juste une mini-parenthèse, Gabriel, juste pour savoir, juste parce que je me pose réellement la question, pourquoi, c'est quoi l'argument? C'est quoi l'argument que les logements en location Airbnb font partie majeure du problème?
L'argument central, c'est de dire qu'il n'y en a plus de logements à cause d'Airbnb. Ça vient tout nous chercher les logements. Fait que c'est plus possible de se loger. La réalité est beaucoup plus complexe que ça quand on regarde les chiffres. En Statistique Canada a fait une excellente étude cette année, en 2024, aux alentours de fin juillet, qui indique en fait, la conclusion de ça, c'est, attendez un peu avant de dire que quand on prend 100% des Airbnb dans une ville, on pourrait les remettre sur le marché locatif. Prenons l'exemple de la ville de Québec pour être très précis, ou plutôt la grande région de Québec. Environ 6 000 logements d'Airbnb récemment, 5 800 et des poussières, et on nous dirait, par exemple, ben là, vous voyez, c'est quand même 5 000 logements qui pourraient revenir sur le marché, réveiller, annuler Airbnb, permettez-le pas à la population. En réalité, c'est beaucoup plus compliqué. Si, par exemple, vous voulez arrondir vos fins de mois, parce que, comme tout le monde, ben le coût de la vie a augmenté, puis c'est un petit peu plus difficile de joindre les deux bouts, vous vous dites, écoute, pendant les festivals, pendant le FEQ, hein, Festival d'été de Québec, je vais louer une des chambres. Je vais m'assurer qu'elle soit libre, comme ça, ben ça me permet de joindre les deux bouts. Ben, si vous faites ça quelques fins de semaine par année, c'est difficile de se dire que votre appartement il pourrait retourner sur le marché. Vous y habitez.
Pourtant, ah, c'est ça.
C'est sur la plateforme Airbnb. Un autre bon exemple, ce serait de dire, vous avez un chalet un petit peu plus loin, hein, dans le coin de Charlevoix, puis vous dites, bon, moi, une fin de semaine sur deux, je m'en vais à mon chalet, ben vous n'êtes pas là. Encore une fois, vous allez vers une destination de vacances, ben plutôt votre chalet, c'est quand même votre appartement. La semaine, vous y habitez. Vous n'allez pas habiter à temps plein à Charlevoix quand vous travaillez proche de la colline. Là, ça fait aucun sens. Et donc, cette dynamique-là nous permet de venir isoler vraiment le nombre de logements potentiels. Mmh. Et ce qu'on voit, c'est que c'est vraiment des poussières. Là. On est en bas de 2000 dans la grande région de Québec. Ça peut paraître gros, 2000, mais quand on regarde sur le parc de logements en entier, c'est même pas 0,5% des logements. Et donc, de dire que la problématique provient d'Airbnb, c'est très, très fort de café. C'est même un petit peu déconnecté de la réalité, hein, parce que dans la mesure où il faut simplement bâtir plus et que l'ensemble des logements à bâtir est beaucoup, beaucoup plus élevé que le maigre 2000 de logements Airbnb.
Mm-hmm. Puis Gabriel, je te donne quelques statistiques en passant puis qui proviennent directement du bureau de la mairie de Québec. T'sais, on a construit 906 logements sociaux et abordables en 2024, mais on s'est vraiment réveillé sur le tard. 182 en 2020, 135 en 2021, 314 en 2022 et 368 en 2023. Donc, comme tu le dis, la problématique vient beaucoup plus là, de la part gouvernementale, je dirais. T'es tantôt te dire, hey, les maires et mairesses, réveillez-vous. Ben, c'est un peu ça. On parle beaucoup dans cette optique-là de crise du logement de l'immigration. Ah, c'est une crise du logement à cause de l'immigration. C'est à cause qu'il y a trop d'immigrants. Mais c'est-tu vraiment le cas ou c'est un manque de vision comme on le voit avec la Ville de Québec?
Écoutez, d'abord et avant tout, il y a une dynamique d'offre et de demande. Si vous faites augmenter rapidement la demande, mais vous ajustez pas l'offre. Autrement dit, s'il y a beaucoup de nouvelles personnes qui arrivent ici, les immigrants, mais que vous augmentez pas le nombre de logements, c'est sûr qu'il va y avoir un débalancement. Et ce qu'on regarde essentiellement, c'est bon, oui, il y a une augmentation de la demande, oui, il y a un impact sur le prix. Maintenant, à quel point c'est possible pour le secteur privé d'augmenter le nombre de logements mis en chantier et construits? C'est là que le bas blesse. Alors, je me suis pas attardé spécifiquement à la ville de Québec, mais quand on regarde au Québec en général, notamment dans les grandes villes, on constate qu'il y a beaucoup de délais pour la délivrance de permis, qu'on a une addition de complexité dans les règlements de zonage, qu'on a des règlements qui sont de plus en plus à la mode, là. C'est venir mettre des taxes sur la construction, ce qui réduit l'abordabilité des logements. Bref, c'est difficile à l'offre de s'ajuster à la demande. Et ça, on pense que c'est un élément qui est central et beaucoup plus important sur le prix du logement de monsieur, madame, tout le monde que Airbnb, par exemple, qui serait complètement de côté. Et tu as dit quelque chose d'entrée de jeu qui me semblait important, que je n'ai pas abordé dans mon texte pour la question, c'est la question des lobbies hôteliers. Mm-hmm. Les lobbies, là, quand vous regardez dans l'espace médiatique, on le voit périodiquement, ça vient contre Airbnb. Ah, il faut appliquer la loi, il faut que ce soit plus sévère. Mais la réalité, là, c'est quand on voyage, que ce soit des gens de l'extérieur qui viennent à la ville de Québec, parce qu'on va se le dire, c'est quand même une ville très, très intéressante sur le plan touristique et autres, mais c'est sûr que si vous avez des Airbnb qui sont moins chers, plus proches du Vieux-Québec, vous allez opter pour ça. Mais en même temps, ça permet de la concurrence, ça va venir tirer les prix à la baisse sur le prix des hôtels, et peut-être qu'il arrivera un point où, ben, peut-être que l'hôtel va être un petit peu moins cher parce qu'il y a tellement de demandes sur les Airbnb, et ça vient créer une dynamique de concurrence qui est bon pour le consommateur. Alors ça, il faut toujours le garder en tête.
Mais tellement. Puis Gabriel, tu viens de nous prouver là en jasant que c'est un impact complètement mineur sur la problématique du manque de logement. Là, je parle des Airbnb. L'autre côté de la médaille, puis tu sais, des fois, c'est faut regarder les deux bords, t'enlèves les Airbnb, d'après moi, il y a un impact majeur sur le tourisme. Parce que, veux pas, que ce soit pour la personne qui loue son logement, une chambre, son chalet, ou pour les gens qui vont venir vivre des activités, faire des activités, vivre la ville, si on enlève les Airbnb, on perd du côté touristique, là.
Je pense également qu'on perd du côté touristique. On reste d'avoir une augmentation des prix aussi des chambres d'hôtel. Là, logiquement, on réduit la concurrence. Donc, si on garde la demande assez similaire, puis l'offre, on la réduit, ben, il va y avoir des prix qui vont augmenter. Donc, ça peut se répercuter sur moins de touristes, évidemment. Et puis, c'est également une dynamique où si vous avez un 4,5 et que vous voulez la louer, votre chambre, en fin de semaine, pourquoi le gouvernement, maire ou la mairesse vous dirait que vous n'avez pas le droit. Ouais. C'est à vous, la propriété. Donc, il y a aussi cet élément-là qui me dit, ben, c'est un petit peu particulier. La Ville de Québec, là, est quand même dans une perspective, je dirais peut-être pas de croisade, mais de combat contre la question Airbnb où il ne faut pas louer plus que 31 jours si c'est dans votre résidence principale, parce que sinon, c'est plus noté, en fait, ça devient une résidence touristique, une activité touristique, puis là, il y a des zonages précis, c'est très restrictif. Je pense que plutôt que de continuer et de persister dans cette dynamique-là, hein, parce que ça fait partie de la vision d'habitation de la Ville de Québec, ben, ça serait beaucoup plus de dire un instant, on va plutôt se focaliser sur construire davantage, de permettre aux constructeurs de réduire les délais, les coûts pour eux, puis s'assurer que les gens qui habitent dans le Grand Québec puissent avoir une place où habiter. Malheureusement, aujourd'hui, on sent pas que c'est dans le discours.
Mm-hmm. Oui, parce que là, dans le discours, on a plus justement réglementation Airbnb, taxes de redevance lorsqu'on va construire des immeubles à logement, puis assinage sur le nombre d'étages parce que je pars mon coucher de soleil.
Ben, c'est exactement ça. On le voyait des fois là à Montréal, des fois où vous voulez juste une des deux ascenseurs, on va annuler votre projet qui reconstruit des centaines de logements. Je pense qu'il faut beaucoup plus de flexibilité. Au final, ce que les gens veulent, c'est d'être capable d'avoir un logement abordable. Mm-hmm. C'est un des grands enjeux, je pense, dans les prochaines élections municipales et potentiellement aussi au niveau provincial, parce que les jeunes veulent habiter à quelque part d'autre que chez leurs parents. On est de plus en plus vieux quand on habite dans leur maison. En fait, les gens qui habitent chez leurs parents sont de plus en plus vieux parce que le logement est de moins en moins abordable. Ça reste un enjeu qui est générationnel. Puis si on veut vraiment s'attaquer à la chose, ça ne sera certainement pas en interdisant Airbnb.
Discussion tellement intéressante. Gabriel Giga est analyste senior en politique publique pour l'Institut économique de Montréal. Gabriel, comme toujours, là, un immense plaisir. Merci pour ton temps ce matin.
Merci beaucoup.
Salut.
Piste vraiment, puis discussion ouais. vraiment intéressante par rapport, tu sais, le nerf de la guerre, c'est quoi? Là, mm-hmm. Les Airbnb viennent-ils vraiment bloquer du logement qu'on pourrait louer annuellement? C'est ça qu'il faut pas oublier. Ben, c'est là le point. T'sais, si tu loues, toi, t'sais, l'exemple, je l'aime bien, de l'appartement puis le chalet. T'sais, mettons, t'as un appartement puis un chalet.
Oui.
Ça se peut qu'un week-end que tu es à ton chalet puis tu vas peut-être louer pendant un festival ton appartement. Et vice-versa, peut-être t'es à ton appartement puis tu vas peut-être louer pour un week-end ou une semaine mm-hmm. ton chalet. Mais ça serait pas de la location disponible annuellement pour quelqu'un qui cherche un logement, là.
Non. T'sais, pour vu que c'est allé vite avec les chiffres, je le résume, il y a 5817 logements ou chambres présentement à Québec qui peuvent être disponibles sur Airbnb. Puis ça, c'est pas toujours annuellement. Là. Comme Gabriel nous l'a bien expliqué, ça peut être « Hey, c'est le festival d'été, m'en mettre une chambre disponible puis je vais la louer pour les gens qui veulent venir voir les spectacles. » De ceci, il y a seulement 1843 qui, eux, représentent des logements réels qu'on pourrait louer à une famille à l'année. C'est 0.48% des logements de toute la région métropolitaine de Québec. Donc, on livre une guerre pour 0.48%. Puis à la place, ben, le maire Marchand s'occupe pas de l'îlot d'Orchester qui relancerait ouais. Saint-Roch.
Ouf. J'aime beaucoup les discussions avec Gabriel Giga de l'Institut ouais. économique de Montréal. Là, super, super intéressant. Gros job encore une fois. 8h40, Rage Against le matin, boulevard 102.1, ce lundi matin. Courte pause. On se retrouve tout de suite après. Jusqu'à 10.